je vous offre mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et qu'elle soit une année métaphysique, bonne et excellente. Alors nous allons continuer cet effort que nous avons commencé avant Noël, découvrir dans la philosophie première, qu'on dit métaphysique, ce que représente ce seconde découverte de l'être en acte et en puissance. Alors, je vous rappelle, pour que vous soyez bien en acte, que la philosophie première, c'est la recherche la plus radicale, la plus fondamentale, on peut dire ontologie fondamentale, comme dit Heidegger, il suffit de s'entendre, recherche de ce qu'il y a de plus radical, de premier et en même temps d'ultime. C'est au fond la très grosse difficulté de ce que représente la philosophie première. C'est que d'une certaine manière, elle présuppose toutes les autres parties de la philosophie, et d'une autre manière, elle est au-delà. Et donc, elle n'en a pas besoin. On peut entrer tout de suite par la métaphysique dans ce que représente le problème de la philosophie première, mais il est évidemment plus facile de comprendre toutes les autres parties de la philosophie sur lesquelles se fonde, d'une certaine manière, la philosophie première. Au fond, la philosophie première, c'est ce contact de l'intelligence comme intelligence. Je dis bien, le contact de l'intelligence comme intelligence avec la réalité existante, avec le sujet lui-même qui philosophe ou les autres réalités, et essayer de saisir dans ces autres réalités et dans le philosophe qui réfléchit ce qu'il y a de plus profond en lui, de ce qu'il y a de plus premier en lui, c'est-à-dire non pas seulement le point de vue de la vie, non pas seulement le point de vue de l'esprit, mais ce qu'il est. C'est ça le propre de cette philosophie première. Ce qu'il est en comprenant bien, ce qu'il est en tant qu'il existe, en tant qu'il est. Donc on reprécise, parce que les autres parties de la philosophie étudient justement les diverses modalités sous lesquelles on peut regarder une réalité. On peut la regarder en tant qu'elle est un certain devenir, on peut la regarder en tant qu'elle est un certain vivant, l'homme est un vivant, l'homme implique un certain devenir, on peut la regarder sous d'autres aspects de ses diverses opérations, son travail, sa capacité de rejoindre les autres et de les aimer, sa capacité de coopérer avec les autres. Mais il y a un problème plus fondamental, premier, c'est de considérer ce qu'il est dans son être même, puisqu'il existe. Et c'est au fond là où c'est pas une abstraction au sens propre, c'est comme un regard qui veut être le plus pénétrant possible par rapport à la réalité. Alors on pourrait dire, mais c'est complètement inutile. C'est la question de savoir si la philosophie est utile ou pas. Il y avait une petite enquête qui avait été faite, de savoir de l'utilité de la philosophie. Et on avait demandé aux divers professeurs de philosophie de savoir de l'utilité de la philosophie. Eh bien, il est évident que la philosophie ne fait pas partie de la catégorie utilitaire. Donc, il faut tout de suite, à ce moment-là, reconnaître que si on veut être dans l'utile, faisons du commerce. C'est mieux, c'est plus rapide. La philosophie peut être très utile, mais pas immédiatement, à long terme. Et au point de départ, elle n'est pas utile, mais elle est nécessaire. C'est curieux, mais c'est comme ça. Elle est nécessaire pour que l'homme découvre en profondeur ce qu'il est. Pour que l'homme découvre en profondeur ses diverses dimensions. La philosophie enveloppe une anthropologie. Toujours se rappeler cela. Et c'est toujours important de se le rappeler, parce qu'autrement, on risque de perdre ce point de vue réaliste de la philosophie. La philosophie est pour l'homme, et non pas l'homme pour la philosophie. Je crois que ça, vous commencez à le comprendre. Et c'est très important, il s'agit de le réaliser dans sa vie, et chaque fois que vous pensez, comprendre que c'est toujours pour l'homme. Il ne s'agit pas uniquement d'aiguiser des concepts et de se gargariser de concepts. Parce que le gargarisme des concepts, ça peut être très très bon. C'est la critique qui fait ça, vous voyez, le gargarisme des concepts. Mais ce n'est pas la finalité. On fait de la philosophie pour mieux comprendre ce que c'est que l'homme. Alors vous allez me dire, il faut regarder avant tout l'homme vivant, l'homme dans ses opérations de travail et d'amitié, l'homme dans la coopération, ça on comprend que c'est très important. Mais regardez l'homme du point de vue de l'être, puisque je n'ai aucune prise sur l'être au point de vue pratique. Vous ne pouvez pas modifier l'être. C'est bien dommage. Je ne sais pas ce que vous feriez, si vous pourriez modifier l'être. Il faudrait des petits êtres comme ça, n'est-ce pas, tout d'un coup. Mais vous ne pouvez pas modifier l'être. Vous pouvez modifier les rapports des êtres. Vous pouvez modifier les formes et les qualités par leurs diverses relations. Mais vous ne pouvez pas modifier l'être. Ça, je crois que c'est très important de comprendre ça. De saisir que l'être échappe à toute emprise de mon dominium, à toute emprise de mon autorité. Je n'ai pas d'autorité sur l'être. Alors les gens qui sont très axés sur l'autorité, l'être leur échappe. Les gens qui sont très axés sur un pouvoir, l'être leur échappe. C'est pour ça qu'ordinairement, quand vous mettez le dominium au-dessus de tout, vous haïssez l'être. Parce que l'être échappe à tout dominium, à toute autorité. Je ne peux pas manœuvrer l'être. Il est au-dessus. Je ne peux même pas, voyez, considérer l'être comme ce qui me finalise. C'est le bien qui me finalise. Et le bien est distinct de l'être. C'est vrai, c'est pas la même chose. Parce que le bien, ça me finalise, je pourrais dire là, je commence, je comprends. Il est important d'être finalisé. Alors à quoi ça sert l'être? Puisque ça ne me finalise pas, je ne peux pas le faire. Alors l'efficacité s'arrête à l'être. Le point de vue de la finalité, pas directement. Ce n'est pas en regardant l'être que vous allez vous finaliser. Alors à quoi ça sert? C'est vrai, il faut se poser la question, il faut comprendre que l'être est au-delà de ces deux grands aspects sous lesquels très facilement nous restons, la finalité, l'efficacité. Ça, c'est les deux grands axes sous lesquels, de fait, je peux m'orienter. Alors, pourquoi regarder l'être, me regarder en tant qu'être? Regarder mon voisin en tant qu'être. C'est du reste très paisible de regarder mon voisin en tant qu'être. Parce que, en tant qu'être, il n'agit pas sur moi. C'est merveilleux. Il est sous vitrine. N'est-ce pas ? Il n'agit pas sur moi et il ne peut pas m'attirer en tant qu'être. Donc, il est d'une neutralité absolue. C'est pas vrai de dire qu'il est d'une neutralité. Mais, en tant qu'être, il m'échappe. Pourquoi alors ce dernier regard philosophique de regarder le point de vue de l'être ? C'est que, de fait, je ne peux saisir ce qu'est l'esprit au-delà de la vie que dans la mesure où, justement, mon esprit s'actue. Et il s'actue dans la mesure même où il atteint l'être. Alors là, ça commence à devenir très intéressant. Quelqu'un qui aurait une négation absolue de l'être ne saurait pas ce que c'est que le nous, l'intelligence. Il comprendrait peut-être la vie de l'esprit, mais ne comprendrait pas l'esprit. C'est quand même important d'essayer de voir la différence entre les deux. Et c'est là où tout de suite je saisis qu'il y a là un intérêt très particulier à la philosophie première. C'est que je dois éveiller en moi ce qu'il y a de plus profond, ma qualité d'être spirituel, d'être capable de connaître, capable de saisir les choses dans ce qu'elles ont de plus profond. Je peux peut-être encore aller un peu plus loin. C'est déjà pas mal. Si on fait de la métaphysique, c'est pour être plus intelligent. Et c'est vrai, ça. Si on fait de la métaphysique, c'est pour être plus intelligent. C'est pour éviter certaines confusions qui emprisonnent l'intelligence. Il y a beaucoup de choses qui emprisonnent l'intelligence, qui empêchent l'intelligence d'être elle-même, de se délier profondément comme intelligence, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible de ses capacités d'intelligence. Donc c'est pour découvrir, j'allais presque dire, l'état natif de l'intelligence. Ordinairement, quand je suis dans le point de vue descriptif du bon sens, mon intelligence est collée à ma raison. Les êtres de bon sens, c'est des gens qui raisonnent bien. Ils raisonnent. N'est qu'à écouter les êtres de bon sens. Moi, je suis un être de bon sens, ils raisonnent tout le temps. Parce que l'intelligence et la raison sont très collées. C'est ça, être un être rationnel de bon sens. Il définit, il aime de définir. Un bon dictionnaire, tout de suite là, il définit. Et il reste au niveau des définitions et d'un certain raisonnement. Ça, c'est le bon sens. On reste au niveau des catégories. Un être de bon sens ne dépasse pas beaucoup les catégories. Il aime bien voir ça. C'est propre. C'est clair. Alors, il reste au niveau des catégories. Et donc, il ne pénètre pas ce que c'est que l'intelligence comme telle. Pénétrer ce que c'est que l'intelligence comme telle, c'est dépasser nécessairement les catégories. C'est dépasser le bon sens. C'est pas le supprimer, on ne supprime pas les catégories, on ne supprime pas le bon sens. On trouve que c'est très important, il faut, c'est nécessaire. Mais on va plus loin, on veut aller plus loin. On veut découvrir l'intelligence dans ce qu'elle a de plus elle-même, dans ses profondeurs. L'intelligence n'est actuée que par la réalité en tant qu'elle est. Et l'intelligence a besoin de ça. Alors vous allez me dire ça, vous dites ça a priori. Non, je ne dis pas ça a priori. Je dis ça à partir d'une certaine expérience de ma vie intellectuelle. Et l'expérience de ma vie intellectuelle consiste justement à regarder la réalité dans toutes les possibilités par lesquelles je peux la regarder. Or, dans ma vie intellectuelle, je vois très bien qu'après avoir regardé la réalité sous toute une série d'aspects, je reviens toujours à un aspect premier, en affirmant que cette réalité existe. Qu'elle est. Moi-même, je suis. Vous voyez, Descartes a été obligé de le dire « cogito ergo sum ». Je ne sais pas s'il était très heureux de dire ça, mais au fond, il était obligé de le dire. Cogito, le cogito, il était obligé d'aller jusqu'à ergo sum. Alors c'est très ennuyeux. Alors ça dépend si cogito contient l'ergo sum ou si le cogito est contenu par l'ergo sum. Ça c'est le petit problème qui est important à savoir, n'est-ce pas ? Si le cogito contient l'ergo sum, alors l'ergo sum est comme une conclusion. Ou est-ce que, pour Descartes, non. L'ergo sum était le fondement du cogito. Là, il y a deux perspectives et deux manières d'interpréter Descartes. De fait, ça existait. Il y a deux manières d'interpréter Descartes selon cela. Ce qui montre bien que c'est pas si commode que ça de voir comment le cogito s'appuie sur l'être, se fonde sur l'être. Ou comment, au contraire, le cogito assume l'être et que l'être est impliqué dedans. Il y a un problème tout de suite. Donc, au fond, si je veux interpréter bien Descartes, je suis obligé de me poser le problème, mais qu'est-ce que c'est que l'être comparativement cogito ? Qu'est-ce que c'est cette affirmation ? Autrement, je peux répéter, mais si je veux comprendre ce qui est dit là, il n'y a pas que Descartes, je vais aller un peu plus loin que Descartes, je vois Parménide. Parménide dit l'être, il est. J'ai quand même essayé de comprendre ce que ça veut dire. Et il est, pour lui, c'est vraiment une découverte. Donc, historiquement, vous voyez, la philosophie première est inscrite très profondément. Descartes, Parménide. Je peux prendre évidemment Heidegger, tout de suite. Alors je dis, au fond, le problème de Heidegger pose le problème de l'être. Donc il me le repose. Il me le repose avec véhémence. Il me le repose avec un caractère extrêmement fort. Je suis bien obligé si je veux essayer de comprendre. Je peux évidemment dire, Descartes, Heidegger n'a rien compris. Descartes n'a rien compris, Parménide n'a rien compris. Il n'y a qu'une seule chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est autre chose, la philosophie du langage. Je peux très bien dire ça, c'est un peu court de supprimer tous les ancêtres de cette manière, en disant, il n'y a que moi qui comprends quelque chose, et je m'arrête à ça. Non, il faut quand même essayer de voir qu'il y a peut-être là quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas obligé, dès le point de départ, de me dire, la philosophie première, elle existe encore, il faut la ressusciter. Il faut la délivrer d'une quantité de bavures qui ont été autour d'elle. C'est très vrai, il faut la ressusciter. C'est très vrai. Elle n'est pas très monnaie courante aujourd'hui. Alors, si je regarde la philosophie au niveau des monnaies courantes, je dirais, acceptons l'enterrement de la métaphysique, enterrement de première classe de Heidegger, et puis laissons tomber. On peut dire ça, c'est sûr. Mais si on le dit sur un a priori, c'est pas très philosophique. On doit au moins essayer de voir s'il y a une possibilité de comprendre une philosophie première qui a été ce regard de l'intelligence sur l'être. Alors, quelle est ma première expérience sur l'être ? C'est au fond comme ça que je dois le saisir. Ou ma première intuition sur l'être. Au fond, ça m'est égal. Première intuition, première expérience. Y a-t-il une intuition sur l'être ? Y a-t-il une expérience sur l'être ? Je dois me poser loyalement la question, puisque de fait, je vois que dans l'histoire, on a parlé de l'être. Si on a parlé de l'être dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de l'Occident comme dans l'Orient. Olivier Lacombe a fait un parallélisme très intéressant, lui qui connaît bien la philosophie de l'Inde, entre certains philosophes de l'Inde qui se sont posé le problème de l'être. D'une façon très proche des philosophes de l'Occident. C'est peut-être par là que l'Orient et l'Occident se donnent la main. Il faut aller jusque-là pour qu'ils se donnent la main. Si je ne vais pas jusque-là, je mettrai les oppositions, je mettrai les oppositions entre les deux. Tandis que si je veux comprendre qu'il y a peut-être quand même l'Inde et l'Occident, il y a quand même, ce sont des hommes des deux côtés. Il y a l'homme religieux et puis l'homme qui s'est avant tout libéré du point de vue religieux pour être avant tout un homme d'efficacité. Alors à ce moment-là, il se tourne le dos. Mais si je veux essayer de voir d'où vient cette philosophie religieuse, d'où vient cette philosophie d'efficacité, je retrouve le problème de l'être des deux côtés. Donc il y a quand même quelque chose que je dois regarder. Alors, nous avons vu, je ne vais pas le reprendre, cette expérience fondamentale, d'une certaine manière, au-delà de toutes les expériences et impliquant toutes les expériences, mais un au-delà de toute l'expérience, le jugement d'existence. Il faut le redécouvrir, parce que c'est bien évident que toute une pensée scolastique l'a complètement laissé tomber. Ça, je crois qu'il faut le reconnaître. C'est du reste très ancien. La pensée scolastique est très ancienne. Elle se fonde sur Occam, et avec Occam, c'est tombé complètement, en passant par Suarez. Mais au fond, on voit que ce jugement d'existence est laissé tomber. On a commencé la philosophie par des définitions. On a commencé la philosophie et la métaphysique par la logique. On est resté sur des définitions. Et on a cru que c'était la philosophie, alors la philosophie du bon sens, définir. Je veux bien, mais ça ne va pas très loin. Ça reste une certaine courte vue. C'est intéressant, ça a un intérêt, mais c'est pas, ça ne va pas très loin. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment creusé le point de départ. C'est important, le point de départ. Parce que si on prend comme point de départ de la philosophie la définition, on n'ira pas très loin. Si on prend comme point de départ de la philosophie l'expérience, on va un peu plus loin. Et si, au-delà de toutes les expériences, on voit ce qui est contenu dans toutes les expériences, le jugement d'existence, alors à ce moment-là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et on interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Alors peut-être que là, on découvre qu'il y a une certaine... À côté de l'expérience, il y a une vile intelligence qui s'est éveillée. Expérience, intuition. Parce que le premier moment où je pose la question de l'être, je la pose sous le point de vue de l'interrogation. C'est très curieux. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors l'interrogation peut cacher une intuition qui se sait pas assez nette. Une intuition qui est encore trop imparfaite. Je n'ai pas une intuition de l'être absolue, mais j'ai une quasi-intuition de l'être dans l'interrogation. Donc une intuition imparfaite. Une intuition qu'il faut essayer de préciser. Qu'est-ce que c'est ? Autrement, je n'interrogerais pas. Si j'avais l'intuition au sens absolu, je n'interrogerais pas. Quand j'ai des intuitions, je n'interroge plus. Je dis, pauvre type, ceux qui n'ont pas l'intuition. Mais je n'interroge plus. L'idéaliste n'interroge plus. La parole de Merleau-Ponty. Et lui pouvait le dire. L'idéaliste n'interroge plus. Dès que vous interrogez, vous reconnaissez qu'il y a un au-delà de l'intuition qui est l'expérience. Ce serait très important de faire le statut de l'interrogation aujourd'hui, vous voyez. Je crois, au point de vue philosophique, c'est très intéressant. Faire le statut de l'interrogation. Qu'est-ce qui commande une interrogation ? Le pourquoi de l'interrogation. Le pourquoi du pourquoi. Ça, en critique, c'est intéressant. Une intelligence qui est purement intuitive n'interroge pas. Elle n'a pas à interroger. Parce qu'elle saisit. Alors si, évidemment, vous dites « Ah, c'est une intuition imparfaite », comment deviendra-t-elle parfaite ? Parce que l'imparfait ne devient pas spontanément parfait. Pour que l'imparfait devienne parfait, il faut bien qu'il prenne la canne de l'aveugle. Il faut bien qu'il comprenne qu'il y a quelque chose en dehors de lui pour pouvoir devenir parfait. Alors, je comprends très bien qu'une intuition imparfaite puisse interroger. C'est vrai. Alors, elle interroge pour revenir à une source cachée. Ce qui montre que l'intuition n'est pas première dans ma vie intellectuelle. Autrement, je serais obligé d'évacuer de toute ma vie intellectuelle, l'interrogation. Alors là, je crois que je me mets devant un a priori terrible. Je crois que nous cherchons. Je ne crois pas que nous sommes par nature des êtres qui possédons intuitivement la vérité. Je crois que nous sommes des êtres qui cherchons. Qui cherchons lentement, péniblement, en acceptant des moments où on ne voit rien du tout, en acceptant des moments où il y a des tunnels. Il n'y a pas d'intuition dans les tunnels. C'est important l'intuition en art, l'intuition esthétique, c'est très très important. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'intuition esthétique, ce n'est pas la peine qu'il prenne comme métier d'être poète. Il ne réalisera jamais rien dans sa vie. Il portera en lui peut-être un amour de la poésie. Mais l'amour de la poésie ne fait pas le poète. Il ne faut jamais l'oublier. L'amoureux de la poésie n'est pas le poète. Le poète est autre chose que l'amoureux. Il est poète. Et alors lui sait qu'il a une capacité de réaliser quelque chose. Et cette capacité de réaliser quelque chose, c'est qu'il y a une intuition. Une intuition qui implique une il a une inspiration qui est une intuition. Son inspiration se traduit dans une intuition. Alors là, je saisis le point de départ de la réalisation artistique. Mais le point de départ de la réalisation artistique n'est pas le point de départ de la philosophie. Autre chose, être poète. Autre chose, être philosophe. Bien que si on est poète, ça aide d'être philosophe. Comme si on est amoureux, ça aide d'être philosophe. Je crois que quelqu'un qui n'est absolument pas amoureux, qui n'est absolument pas poète, c'est difficile d'être philosophe. Alors il reviendra à la philosophie de la définition et de la logique. Et ça, c'est le refuge des pécheurs, c'est-à-dire de ceux qui ne sont ni amoureux ni poètes. Alors refugium peccatorum, n'est-ce pas ? Alors il se réfugie dans la logique. Je crois qu'il ne faut pas beaucoup d'intuition pour être logicien. Pas beaucoup d'amour. C'est un refuge. Remarquez que c'est très agréable. Quand il fait très froid, c'est quelquefois très utile, n'est-ce pas ? Alors, quand il fait très très froid, on a besoin d'un refuge. Et alors, on se réfugie dans la logique. Je crois que c'est un refuge. Puis, on verra ce que c'est que la logique durant ce trimestre pour la propédeutique. Alors, vous verrez le refuge. C'est un refuge très propre. C'est déjà quelque chose, hein, c'est déjà quelque chose. Il est propre. Il est... Oui, parce qu'on définit. On précise les êtres de raison. Enfin, un peu glacial, les êtres de raison. Mais c'est quand même propre. C'est déjà quelque chose. C'est un refuge propre. L'amoureux, le poète, ce que dit Platon admirablement, l'amoureux, le poète, le philosophe. Vous voyez que Platon lui-même nomme les trois. Ce qui fait qu'il n'identifie pas les trois. Mais il reconnaît que les trois ont des démarches parallèles. Et ça, je crois très fort. Je crois que le poète, l'amoureux, le philosophe ont des attitudes semblables. Ils ont des attitudes semblables. Ils se donnent assez facilement la main. C'est intéressant quand on est philosophe de rencontrer un vrai poète. Je dis un vrai, qui fait des œuvres. Pas seulement celui qui est amoureux de la poésie. Mais qui réalise quelque chose. C'est beau, c'est grand. C'est intéressant de rencontrer aussi quelqu'un qui est amoureux follement. Parce qu'à ce moment-là, il dit des choses étonnantes. S'il parle, parce que s'il ne parle pas, s'il n'est qu'amoureux, alors c'est le silence. Et alors à ce moment-là, très bien, vous respectez son silence. Mais ça ne vous avance pas beaucoup. Vous dites oui, ça existe. Ça existe, c'est déjà beaucoup. Le philosophe, lui, n'est ni à iné. Il respecte, mais c'est autre chose. C'est une troisième dimension. Alors c'est là où c'est intéressant de voir la différence entre le poète, l'amoureux et le philosophe. Le philosophe, il est amoureux de la vérité, je crois. C'est en ce sens-là qu'il s'attend, qu'il se touche avec l'amoureux. Il a au moins un amour. Je crois que si on n'a pas d'amour, on ne peut pas être philosophe. Le thumos grec, hein, le désir de découvrir quelque chose. Le désir d'aller plus loin que la simple description. Le désir d'aller plus loin que la logique. En respectant tout cela, mais le désir d'aller plus loin. Découvrir la vérité, découvrir l'homme. C'est un amoureux de l'homme, le philosophe. Il est amoureux de découvrir l'homme dans toutes ses dimensions. Et au fond, c'est peut-être ça qui montre le mieux le sens philosophique, d'aller le plus loin possible dans la découverte de l'homme et découvrir dans toutes ses dimensions. Et c'est pour ça que, de fait, il prendra la dernière dimension, la philosophie première, pour découvrir l'homme dans toutes ses dimensions. Il est amoureux de la vérité et il aime le poète. Pourquoi ? Parce que le poète lui donne toujours comme un monde de beauté, de splendeur, un monde idéal. Alors il aime bien de voir cela pour comprendre comment dans le cœur de l'homme, il y a toujours un certain idéal qu'on porte. Alors c'est important de comprendre ce que c'est que le poète pour mieux comprendre ce que c'est que le philosophe. Pour mieux comprendre. En comprenant que c'est autre chose. Encore une fois, les deux peuvent coexister. C'est très très bien. C'est très très bien que les deux coexistent. Mais je crois qu'il comprendra toujours qu'il y a deux manières différentes de regarder la réalité. On la regarde en poète, on la regarde en philosophe. Regardez l'homme en poète. c'est extrêmement beau. Mais quelquefois, ça manque un peu de réalisme. Ça manque un peu trop de réalisme. Ça décolle un peu. Alors c'est bon de savoir ce que c'est. Et il faut le savoir. Je crois qu'un philosophe qui ne connaîtrait absolument rien à la poésie, il y a quelque chose qui manque. Comme un philosophe qui ne connaîtrait rien du tout à ce que c'est que l'amour. Alors pourquoi regarde-t-il l'être? C'est pour connaître l'homme. Connaître l'esprit de l'homme et aussi regarder ce qui dépasse l'homme. Pour connaître l'homme, il faut savoir si l'homme est un point oméga de l'être ou il n'est pas le point oméga de l'être. Il est obligé de le savoir s'il veut être un philosophe. Savoir si l'homme est un absolu dans l'ordre de la réalité existante ou si l'homme est essentiellement dépendant d'un autre. Ce qui est au fond très difficile à voir. Et pour ça, il faut dépasser l'homme. Parce que quand je ne regarde que l'homme, je ne peux pas voir s'il y a quelque chose au-delà de l'homme. C'est pour ça que le poète, comme poète, ne peut pas. L'amoureux, comme amoureux, ne peut pas. Il faut quelque chose d'autre. Il faut aller plus loin. Parce que pour l'amoureux, l'homme est l'absolu. L'ami qu'on aime, celui qu'on aime, est un absolu. Pour le poète, la créativité de l'homme qui réalise une œuvre est un certain absolu. L'œuvre est antidestin. Malraux, et on voit très bien ce que ça veut dire. Parce qu'au fond, on ne dépasse pas cela. Mais à ce moment-là, je ne peux pas savoir si l'homme est dépassé par autre chose. Si l'homme est un absolu. Si je suis amoureux de l'homme et que je veux saisir l'homme dans toutes ses dimensions, je dois nécessairement me poser la question, est-ce qu'il y a une réalité qui dépasse l'homme ? Pour pouvoir saisir s'il existe une réalité qui dépasse l'homme, il faut donc que je regarde l'homme dans sa dimension la plus commune à l'égard de toutes les autres réalités. Et en même temps, de regarder en lui ce qu'il y a de plus profond. Très curieux. J'ai besoin de ce double regard. Regarder l'homme dans ce qu'il a de plus commun. Comment se fait-il que l'homme existe comme la montagne existe, comme la vache existe? C'est quand même curieux. Il y a là quelque chose de commun entre tous. Ce qui montre quand même que l'homme ne transcende pas toutes les autres réalités d'une manière absolue. Du côté de l'être, il ne les transcende pas. Puisque toutes les autres réalités existent. Donc là, je touche quelque chose d'immanent à toutes les réalités. Il y a quelque chose de commun. S'il y a quelque chose de commun, c'est peut-être là où je vais saisir comment l'homme est limité, comme toutes les autres réalités. La montagne est limitée puisqu'elle n'est pas la vache. Et l'homme est limité dans son être. Il existe, mais il n'est pas les autres. Il n'est pas les autres animaux, il n'est pas la montagne. Il accepte que la montagne a une supériorité sur lui, c'est qu'elle pèse plus lourd. C'est quand même une supériorité, quantitativement. Il n'y a pas que la montagne, il y a d'autres animaux. Il accepte que les autres animaux ont quelquefois, du côté de la connaissance, quelque chose qui dépasse l'homme. Il accepte que les autres animaux ont du côté du mouvement quelque chose qui dépasse l'homme. Vous voyez comme c'est curieux cela. Ce qui montre très bien que l'homme ne transcende pas d'une manière absolue. Il est bien la réalité la plus grande, mais il n'est pas la réalité absolue. S'il était la réalité absolue, toutes les autres réalités seraient subordonnées à lui. Or, ce n'est pas ce qui existe. Je ne peux pas dire que la montagne est subordonnée à moi. Elle peut m'écraser. Et donc, elle n'est pas subordonnée à moi. Et les autres animaux non plus. Donc, j'ai bien une supériorité, mais il y a quelque chose de commun avec tous les autres que je dois regarder. Et ce quelque chose de commun va peut-être relativiser l'homme. dans son être. Et si ça relativise l'homme, je découvre une limite et je me pose tout de suite la question, mais alors, il est relativisé à quoi? Qu'est-ce qu'il relativise? Quelque chose que je ne découvre pas, que je n'ai pas immédiatement sous la main, que je ne saisis pas immédiatement sous la main. Quelque chose que je ne peux pas saisir immédiatement dans une expérience immédiate. Alors là, je me pose la question. C'est curieux. Il y a des traditions religieuses. C'est vrai, ça existe. Il y a des mythes religieux. Ça existe. Est-ce que ça dit quelque chose de vrai ou est-ce que ça dit uniquement une nostalgie de l'homme? Est-ce que ces mythes religieux, ces traditions religieuses, sont là pour exploiter une nostalgie? Ou est-ce qu'elles sont là pour manifester une réalité? Je dois pouvoir regarder cela et le comprendre. Et ce n'est pas si commode. Ce n'est pas si commode que ça, de pouvoir faire le discernement dans le mythe, dans les mythes religieux, de ce qu'il peut y avoir de vrai et ce qu'il peut y avoir de flatteur pour l'homme. Flatter ses nostalgies. Aider ses nostalgies à voir quelque chose à se nourrir. L'aspect poétique et l'aspect réel. Les mythes religieux, il y a de la poésie dedans, ça c'est sûr. Alors cette poésie, elle vient de l'homme. Mais est-ce que je peux ramener tous les mythes religieux de la poésie? Ou est-ce qu'il y a autre chose dans ces mythes religieux qui s'imposent et qui ne sont pas uniquement de la poésie? Vous voyez, je retrouve le problème de la poésie, le problème de la vérité. Donc là, je suis bien obligé de me dire, il faut pouvoir regarder ce problème-là pour comprendre qu'est-ce qui dépasse l'homme. Est-ce qu'il y a une réalité qui la dépasse, selon les traditions religieuses? Si je suis chrétien, les traditions religieuses vont prendre une modalité particulière avec le problème de la foi. Je n'ai pas le droit de négliger. Je peux évidemment dire, je n'ai pas la foi, je considère que la foi c'est quelque chose de tout à fait en dehors de la dimension de l'homme, mais il faut bien reconnaître que ça existait. Qu'il a existé un art chrétien, qu'il a existé une culture chrétienne. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'homme? Est-ce qu'il y a là quelque chose de réel ou pas? Vous voyez, le problème frontière, hein, c'est très curieux, le problème de la philosophie première apparaît comme un problème frontière. Peut-être un des aspects sous lequel on devrait développer la philosophie première, c'est la philosophie des frontières. C'est vraiment une philosophie des frontières. Frontière parce que je vois ce qu'il y a de commun de l'homme avec les autres réalités, et je veux saisir en même temps ce qu'il y a d'original. Or, ce qu'il y a d'original dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit a besoin de se nourrir d'une nourriture qui lui est propre, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout des interrogations. Qu'est-ce que c'est que l'être? Frontière entre le point de vue de la poésie qui est mythe et la réalité? Est-ce qu'il y a là quelque chose à voir? Frontière entre la foi et l'homme qui raisonne, qui réfléchit. Il y a donc un problème qui se pose. Et pour que ce problème puisse être regardé en face, nouvelle partie de la philosophie qu'on appelle philosophie première, c'est-à-dire une philosophie qui va jusque dans les fondements, qui va jusqu'au bout et qui veut saisir la réalité dans ce qu'elle a de plénier, qui veut vraiment philosophie des frontières, c'est-à-dire philosophie qui veut aller au-delà de ce que je vois habituellement. Autrement, je ne saisirai pas la frontière. Ce sera un mur. Un mur n'est pas une frontière. N'est-ce pas? C'est un mur. C'est un mur, on ne passe jamais à travers. Une frontière, on peut essayer. On peut essayer, dire, il y a peut-être possibilité d'aller au-delà. Cette philosophie, je la pose à partir du jugement d'existence. Et je la pose aussi à partir des grandes interrogations que l'homme s'est posées. Mais c'est à partir du jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence, ceci est, met en lumière quelque chose que je n'ai pas encore regardé dans les différentes parties de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que l'être ? La philosophie première naît à partir de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et alors, à ce moment-là, j'essaie de répondre. Nous avons vu une première réponse, je ne reviens pas, sur la découverte de ce premier principe propre, premier principe dans le sens génétique, premier principe de ce qui est comme être, la découverte de l'ousia. Et j'aime mieux le dire en grec que substance. Parce que substance, ça vous donne un fond qui n'est pas tout à fait juste. Alors j'aime mieux reprendre l'ousia. Ousia est lié à l'être. Alors qu'est-ce que c'est que la substance ? Qu'est-ce que c'est que substance ousia ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça représente exactement, cette substance, comme principe propre de ce qui est ? Bon, je ne reviens pas. Tout de suite, dès que nous découvrons la substance, nous découvrons la qualité. Et je crois que c'est très important de bien comprendre le domaine de la qualité. Parce que c'est le domaine de la description. Je décris les qualités. C'est le domaine de la forme. Distinguer être et forme, c'est très difficile. Et c'est pourtant très important. Arriver à distinguer être et forme. Je crois que c'est la grande découverte d'Aristote, malgré ce qu'en dit Gilson. La grande découverte d'Aristote. Parce que pour Gilson, Aristote est resté toujours au niveau de la forme. Vous voyez, Gilson a trop bien connu Platon et a regardé Aristote dans la lumière de Platon. C'est comme ça, puisque Gilson à regarder d'abord ses études sorbonnardes, et ses études sorbonnardes, c'était d'abord Platon. Heidegger le dit très très bien, toute la philosophie occidentale n'est qu'une glose de Platon. Il a parfaitement raison de dire ça. Et donc c'est une glose de Platon. Alors quand vous êtes pris par Platon, vous avez une peine énorme à découvrir Aristote. Ça c'est un fait. Il faut presque regardez Aristote avec un regard nouveau, ayant oublié Platon. Vous allez me dire, ah, pourtant Aristote a d'abord été à l'école de Platon. C'est très vrai. Je crois qu'Aristote était assez génial. Et que nous ne sommes pas tous. C'est ça qui est difficulté. Hein. C'est qu'il avait quand même une pénétration d'intelligence, le liseur, comme Platon aimait de le dire. Donc il y avait une pénétration. Je ne crois pas du tout que pour Aristote, être et forme soient identiques. Et pour moi, la grande raison, c'est qu'il a inventé le toti en eina. C'est ça qui montre immédiatement que pour Aristote, on ne peut pas identifier le point de vue de la forme et le point de vue de l'être. Platon identifiait eidos, forme, et homme. Il identifiait les deux. Aristote est en face de cela. Aristote n'a jamais accepté, et tous les historiens sont d'accord là-dessus, il n'a jamais accepté la forme en soi. Et il veut nous faire comprendre la différence qui existe entre la forme et l'être. Et pour ça, il invente toti en eina. Ceci aussi, c'est un fait historique. Il a inventé ça. S'il avait accepté l'identification de la forme et de l'être, il n'aurait pas inventé le toti en eina. S'il invente le toti en eina, c'est pour montrer la distance qui existe entre l'eidos, la forme, et le toam, ce qui est. Ça, c'est très très important. Alors là, on comprend. Et alors, on saisit comment, par là, il va nous faire comprendre que l'ousia est relié directement à toon, ce qui est, et non pas directement à eidos. Mais je comprends que ce n'est pas commode, hein, parce que quand on est en face d'une découverte, c'est toujours très difficile de la redécouvrir. Enfin, mais je crois que c'est très important, parce que ça nous fait tout de suite comprendre que le point de vue de la qualité pour Aristote égale la forme. Ça, c'est très vrai. Tout le domaine de la qualité, tout le domaine de l'ousia, la substance. Alors, c'est important de voir la distance qui existe entre la qualité et la substance. La substance est saisie par induction. La qualité, elle est saisie immédiatement.